les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Et oui, oui, chers auditeurs, bienvenue dans les portes de la connaissance. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, donc voilà. Aujourd'hui, on va faire une émission un peu particulière. Vous savez, on a eu de nombreux scientifiques qui étaient venus sur l'antenne d'Ode Radio. On a fait des émissions sur la science, on a fait des émissions sur les volcans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une émission sur les colères de la Terre. Et aujourd'hui, on a un monsieur qui va nous parler des séismes, puisqu'il est géophysicien. Il est géophysicien, il s'appelle Guy Sénéchal. Il est enseignant, chercheur et maître de conférence à l'université de Pau. Et il est en direct avec nous et on va parler des séismes, des colères de la Terre. Alors, pour beaucoup, les colères de la Terre, on ne les connaît pas beaucoup en France parce qu'on a pas eu l'occasion d'en avoir très souvent des séismes, mais à travers le monde, il y a effectivement des tremblements de terre. On en entend parler souvent aux actualités et ça touche des pays bien malheureusement, souvent qui sont démunis, qui sont pauvres. Alors Guy, bonjour.
Bonjour.
Ah, on vous entend très mal.
Est-ce que vous m'entendez mieux là ?
Là, on entend un peu mieux, mais c'est pas extraordinaire, hein.
Allô. Oui.
Voilà, là on entend bien,
D'accord.
Voilà. Voilà. Alors, Guy, vous êtes chercheur, donc chercheur à l'université de Pau, c'est ça ?
Oui, à l'université de Pau et des Pays de la Tour, tout à fait, oui.
D'accord. Vous avez débuté quand cette carrière ? Parce que comment ça vous est venu l'idée de faire ce métier, d'abord ?
Ah, c'est toujours compliqué, hein. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Disons que j'ai toujours eu un intérêt pour les sciences, hein, le besoin de comprendre, le besoin de savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est pas le côté physicien. Et à côté de ça, je suis montagnard, je viens des Alpes, une passion pour la montagne. Et donc, il y a un âge où au lycée, on essaye de trouver comment est-ce qu'on pourrait à la fois s'intéresser à nos montagnes, à nos paysages, tout en étant physicien. Alors, la Terre en grec, c'est géo. Tout le monde connaît la géologie, hein, l'étude, l'observation des roches, des minéraux, des fossiles. Et moi, j'ai eu la chance au lycée de rencontrer un géophysicien, donc un physicien s'intéressant à la structure profonde, à la physique de notre planète. Et le moyen le plus efficace pour scanner, pour ausculter notre planète, ce sont les tremblements de terre. Et c'est comme ça que tout doucement, je me suis orienté vers la sismologie, en étant formé à Grenoble, qui en plus était mon lieu de prédilection et où il y a un des plus grands laboratoires de sismologie en France.
Alors, c'est le vrai nom, la géophysique, parce que quand on étudie les séismes, souvent, on en fait référence à des vulcanologues, comme Haroun Taziev, par exemple, qui était vulcanologue et qui faisait de la sismologie. Et donc, est-ce que c'est la géophysique, c'est vraiment le domaine particulier qui étudie les tremblements de terre ?
Alors, la géophysique, c'est, disons, l'approche, hein, qui consiste à étudier notre planète en tant que physicien. Alors, on peut s'intéresser aux champs magnétiques, on peut s'intéresser aux champs de pesanteur. Quel que soit le domaine d'observation, c'est de la physique, donc on parle de géophysique. Et pour revenir à Haroun Taziev, donc lui, il était vulcanologue, donc c'est aussi de la géophysique, dans le sens où on va s'intéresser à la température, la pression, la physique du magma. Par contre, on fait aujourd'hui une très grande différence entre vulcanologue et sismologue. C'est vraiment deux branches séparées. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. Ce sont deux manifestations très très marquantes, hein, parfois très traumatisantes des colères de notre planète. Mais ce n'est pas parce que vous avez des tremblements de terre qu'il y aura des volcans et inversement. Alors, historiquement, oui, à l'image d'Haroun Taziev, certains vulcanologues se sont intéressés aux tremblements de terre, mais aujourd'hui, on est vraiment sur deux branches totalement séparées. Je ne suis pas du tout vulcanologue, et les vulcanologues de Clermont-Ferrand ne sont pas des sismologues.
D'accord. Alors, comment on peut... D'abord, des tremblements de terre en France, est-ce qu'on en a eu dans les centaines d'années qui se sont écoulées ? Parce que Jusqu'à maintenant, moi, depuis que je suis né, je n'ai pas eu on a eu des secousses. Il y a eu des secousses, mais il n'y a jamais eu de tremblement de terre à proprement dit. Est-ce que dans les dizaines d'années qui se sont écoulées, est-ce qu'on a eu des tremblements de terre en France qui étaient d'importance assez importante quand même?
Alors, oui, nous en avons eu. Je vais essayer de repréciser un peu en termes de vocabulaire. Nous avons des tremblements de terre, nous en avons énormément. Rien que dans les Pyrénées, on en a à peu près 5 par jour. Donc on est d'accord qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tremblements de terre. Le tremblement de terre en lui-même, c'est le fait qu'à quelques kilomètres de profondeur, on a une faille qui va légèrement bouger, légèrement glisser. Et ça va se traduire par des ondes qui vont en effet être perçues en surface comme des secousses. Donc là, la différence entre secousses et tremblements de terre, hein, on va simplement dire que ce sont toujours des tremblements de terre. Simplement, la très grande majorité sont trop faibles pour être perçues par la population, ce qui donne l'impression qu'il n'y en a jamais. Mais nous, nos stations sismologiques les enregistrent. Et la notion de secousse, on va dire que c'est plutôt lorsqu'en effet, l'intensité du séisme, le ressenti est suffisamment importante pour que les gens s'en rendent compte. Donc je vais prendre l'exemple des Pyrénées. Dans les Pyrénées, si je prends 2025, on a eu à peu près 1700 tremblements de terre qui ont été enregistrés, ce qui revient à peu près à 4 ou 5 par jour. Sur ces 1700, une cinquantaine ont vraiment été ressentis. Vous allez me dire, on n'en entend pas parler, oui, parce que quand je dis ressenti, c'est un ressenti très local. Dans une commune, les gens vont en parler un peu, éventuellement les médias locaux y feront référence. Et finalement, si je reste sur les Pyrénées, il y a eu 2 ou 3 tremblements de terre en 2025 qui ont donné lieu à un petit peu plus de communication. Mais tant que les tremblements de terre ne provoquent pas de dégâts, on va dire que ça reste une information voilà, très très confinée. Si je reprends au niveau national, alors là, c'est notre mémoire qui nous met en défaut. Peut-être que certains auditeurs vont tout doucement se dire, mais oui, c'est vrai que finalement, on en a parlé. Il y a 2 ans et demi, on a eu un séisme du côté de la Laigne, pas très loin de Niort. Et ce séisme a vraiment beaucoup fait parler de lui, hein. Il y a eu des fissures, il y a eu des effondrements. Il n'y a pas eu de victimes. Mais c'est un séisme qui a vraiment été ressenti dans toute la région de Niort. Si je remonte un petit peu plus loin, il y a quelques années, du côté du Teil, à côté de Montélimar, on a eu un séisme qui, lui, a vraiment abîmé un certain nombre de bâtiments. Ça a même généré la fermeture automatique de 2 centrales nucléaires. Donc, on se rend compte tout doucement que quand on reprend notre histoire, notre mémoire nous fait défaut. On est submergé d'informations et finalement on oublie très très vite ces petits tremblements de terre qui bien sûr ne rivalisent pas avec ceux dont on entend parler en Turquie, au Japon, au Chili. Mais quand même, si je prends un peu plus de recul, certaines personnes vont se souvenir du séisme d'Arrête en 1967. Le séisme d'Arrête qui avait détruit 3 villages. On a eu plusieurs centaines de bâtiments qui se sont effondrés. Si on remonte encore plus loin, et en ne restant que sur les principaux séismes les plus forts, il y a eu le séisme de Lambesc au début du XXe siècle, où là il y a eu une quarantaine de victimes. Donc là on est en Provence. Et puis si on remonte cette fois les archives, et là on s'aperçoit que oui, de temps en temps, la France métropolitaine est frappée de très gros tremblements de terre. Alors, je vais quand même préciser une notion. Tout à l'heure j'ai parlé de l'intensité. L'intensité, c'est le ressenti. C'est véritablement la perception que les gens ont du tremblement de terre et la conséquence sur les bâtiments. Pour les scientifiques, pour les sismologues, on va parler de magnitude. La magnitude, c'est l'énergie qui a été dissipée par le tremblement de terre. Alors, ce n'est pas du tout la même notion. Tout le monde comprendra que si vous avez un très très fort tremblement de terre, une très forte magnitude, mais que ce tremblement de terre a eu lieu très loin de là où vous étiez, vous n'allez quasiment rien ressentir. Donc on aurait eu un très fort tremblement de terre, mettons de magnitude 6, mais vous, en n'ayant quasiment rien ressenti, on dira que l'intensité était de 2. Inversement, imaginons un tremblement de terre finalement relativement faible, hein, petite magnitude, magnitude 2. Si ce tremblement de terre a lieu juste sous votre maison, à 1 km de profondeur, vous allez très fortement le ressentir. Et donc on aura une très forte intensité. Donc voilà, il y a deux notions qui donnent lieu souvent un petit peu à un mélange. Mais bon, donc si je reprends mon historique, je regarde cette fois sur les 5-6 derniers siècles, eh bien on se rend compte que une fois par siècle, en France métropolitaine, on a un séisme de très forte magnitude, c'est-à-dire de magnitude 6,2. Mais voilà, une fois par siècle, c'est pas assez pour que la mémoire vivante, même la mémoire des archives, ne reste, je dirais, en première ligne. On est submergé par les crues, les inondations, le réchauffement climatique, les incendies, les problèmes de retrait de la côte. On a tellement de phénomènes naturels auxquels nous sommes confrontés tous les jours qu'actuellement, le tremblement de terre est un petit peu le parent pauvre en France métropolitaine. Mais voilà, mais on en a des tremblements de terre, on en a beaucoup.
D'accord. Alors, est-ce que c'est pas justement parce qu'on a un tremblement de terre de forte magnitude qu'on le ressent sur une large zone? Est-ce que c'est, ou est-ce que, comme vous dites, c'est concentré par rapport à l'endroit où il se trouve?
Alors, en effet, plus un tremblement de terre va être puissant, plus il va être senti loin. En fait, il faut vraiment comparer le tremblement de terre comme si c'était une explosion. Quand vous avez une explosion, suivant que c'est une grande quantité d'explosifs ou une petite quantité, le ressenti se fera plus ou moins loin. Ben, pour le séisme, c'est pareil. Si je prends un tout petit tremblement de terre de magnitude 2, ne vont le ressentir que les gens qui sont à quelques kilomètres de l'épicentre, c'est-à-dire de la zone vraiment où le séisme a eu lieu. Si je prends un magnitude 4, le magnitude 4 va être ressenti sur une quinzaine, une vingtaine de kilomètres autour de l'épicentre. Si je prends un magnitude 5, on va commencer à avoir véritablement un ressenti très marqué sur une cinquantaine de kilomètres. Et si je prends un magnitude 6, on va le ressentir sur une distance, je dirais, de 100, 150 à 200 kilomètres. On a un très bon exemple. En 1660, on a eu un tremblement de terre du côté de Bagnères-de-Bigorre, dans les Pyrénées, et on a beaucoup de témoignages, et ce tremblement de terre a provoqué des dégâts jusqu'à Bordeaux. Donc vous voyez, on est à 200 km de distance, et on dit qu'il a été ressenti jusqu'à Fontainebleau. Et donc on a beaucoup d'archives, beaucoup d'écrits, qui datent d'une époque où il n'y avait pas d'influence par les réseaux sociaux, bien sûr. Et donc, paradoxalement, ces témoignages sont assez fiables. Donc, en effet, plus un séisme est fort et plus la zone qui va être affectée sera grande.
Est-ce que la nature du sol, en fonction de la nature du sol, on a des vibrations plus ou moins importantes? Parce que je sais qu'il y a des sols qui sont spongieux, qui vont avoir tendance à éponger, et d'autres sols qui vont répercuter les ondes comme un sol, par exemple, qui est plus à base de roche ou autre chose. Est-ce que justement la nature du sol n'est pas responsable de la force du tremblement de terre en même temps?
Si, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle un effet de site, c'est-à-dire que lorsque les ondes générées par le séisme, mettons le séisme a lieu à 15 km de profondeur, les ondes en se propageant vont s'atténuer tout naturellement au fur et à mesure que la propagation se fait. Et en arrivant en surface, on va avoir en gros deux cas de figure. Soit le sous-sol est constitué de roches, que ce soit du granit, du calcaire, mais de la roche bien compacte, et la vibration va donc être transmise. Il n'y aura pas d'atténuation exceptionnelle, hein, elle va être bien transmise. Soit le sous-sol est constitué de roches plus molles, on va dire, donc je fais référence à des sédiments qui se sont déposés depuis quelques millénaires, hein, donc essentiellement en bordure de rivières, dans les bassins sédimentaires. Et ces terrains un peu mous, alors c'est un peu contre-intuitif, hein. On pourrait dire que ça va absorber, que ça va atténuer, et en fait c'est tout le contraire. Ces terrains un peu mous vont amplifier l'amplitude des vibrations. Il faut penser un petit peu à la structure d'un pont. Quand vous marchez sur un pont bien rigide, si vous marchez d'un bon pas, vous allez le faire vibrer. Et si vous marchez sur une passerelle un peu souple, vous n'allez pas la faire vibrer, vous allez carrément la faire rentrer en résonance. Vous allez générer un phénomène d'ondulation qui va s'amplifier très rapidement. Donc on a le même processus avec les ondes sismiques. Si un bâtiment est construit sur des sédiments, il va subir une sollicitation plus importante que si le bâtiment est construit sur du rocher bien en place. On a aussi un phénomène topographique. Si vous avez un bâtiment construit en haut d'une colline, la colline va avoir tendance à concentrer l'énergie et vous aurez beaucoup plus de mouvement, d'amplitude en haut de la colline qu'au bas de la colline. Donc on n'est pas tous sur un même pied d'égalité en fonction de l'endroit où on habite, quelle que soit la distance qui nous sépare de l'épicentre.
Est-ce que les zones volcaniques, comme par exemple le Massif central, sont des zones à haut risque au niveau des séismes, plus que des zones, je dirais, qui ne sont pas volcaniques ?
Non, on ne peut pas dire qu'il y a un lien entre le risque sismique et le volcanisme. Disons que si je reprends le Massif central, l'activité volcanique du Massif central, la montée du magma, lorsqu'elle se fait, va se traduire par des vibrations, parce que le magma ne monte pas facilement, il monte laborieusement dans les conduits volcaniques. Et donc, en effet, on peut écouter, avec les stations sismologiques, on peut écouter la montée du magma, ce qui, au passage, peut permettre d'aider à l'anticipation, à la prévision d'éventuelles éruptions. Donc, la montée du magma se traduit par quelques activités sismiques de plus en plus puissantes, mais le contraire n'est pas vrai. C'est pas parce que vous avez des séismes que vous provoquez du volcanisme, et on peut pas non plus dire que le volcanisme va rendre plus dangereux l'aspect sismique. Alors, j'en profite pour préciser un problème de terminologie. On a tous tendance à parler de risque sismique en pensant au risque d'avoir un tremblement de terre. En fait, le risque sismique, c'est un petit peu plus subtil. C'est un petit peu si je vous parlais du risque en voiture. Quand vous montez dans une voiture, vous ne dites pas « je prends le risque de monter dans ma voiture ». Vous dites « je monte dans ma voiture » et ensuite, en fonction de ce qui va se passer, je peux être confronté à un risque. Donc, concernant les tremblements de terre, on a un peu la même logique. Vous avez d'un côté l'éventualité d'avoir un tremblement de terre. Alors, si vous habitez dans les Pyrénées, dans les Alpes, si vous habitez en Alsace, là, on est dans des régions où l'éventualité d'un fort tremblement de terre n'est pas négligeable. Puis après, vous avez un deuxième facteur, qui est la vulnérabilité. Je m'explique, si vous êtes dans une région où il n'y a strictement aucun bâtiment, où il n'y a strictement personne, même s'il y a une forte éventualité d'un séisme très fort, il n'y a pas de risque. Finalement, si un tremblement de terre a lieu, il n'y a strictement personne qui sera blessé, il n'y aura pas de dégâts, donc on dit qu'il n'y a pas de risque. Inversement, si vous avez une région très fortement peuplée, ou avec énormément d'infrastructures, d'industries, le risque va être augmenté. Parce que le risque, c'est véritablement la confrontation entre l'éventualité, l'aléa, et la vulnérabilité. Donc voilà, il faut arriver un petit peu à différencier les deux. Donc si je reprends la carte de France métropolitaine, les régions où l'aléa est élevé, ce sont les Pyrénées, les Alpes, l'Alsace, ce qu'on appelle le fossé rhénan, et puis la bordure sud de la Bretagne. Alors on a une diagonale qui part en gros de Brest et qui va jusqu'à Clermont-Ferrand. Mais dans toutes ces zones où l'aléa est élevé, toutes ne présente pas le même risque. Une des régions en France où le risque sismique est le plus élevé, c'est Lourdes. Alors pourquoi Lourdes ? Parce qu'on est dans une zone où l'éventualité d'un séisme fort est non négligeable, et on a, à côté de ça, une ville importante. Je rappelle que Lourdes, c'est la deuxième ville hôtelière de France, juste après Paris, en nombre de lits. C'est une ville où, les deux tiers de l'année, il y a énormément de monde, et une population très particulière, hein, beaucoup d'étrangers, beaucoup de personnes d'un certain âge, beaucoup de malades, et tout ceci augmente la vulnérabilité et donc le risque sismique.
D'accord. Je ne savais pas pour Lourdes que c'était une région qui était, je dirais, sensible au séisme. C'est vrai qu'en France, on connaît mal ce genre de phénomène parce que on n'y est pas confronté, je dirais, de façon récurrente,
Et oui,
violemment.
c'est tout à
C'est-à-dire,
fait
ce
ça.
sont des petites secousses et on n'est pas comme l'Italie qui, elle, est touchée énormément par les séismes. C'est quand même bien différent. D'ailleurs, justement, dans la seconde partie de l'émission, après la musique que nous allons passer, parce qu'on va faire une pause musicale, on va parler des séismes un petit peu en Italie et on va parler des séismes à travers le monde. Allez, je vous dis à tout de suite, on met une page de musique et on se retrouve tout de suite après.
À tout de suite.
Voilà, chers auditeurs, après cette musique sur le thème, un petit peu, puisqu'on était dans le thème de la Terre et de la protection de l'environnement et des catastrophes, on se rejoint sur les ondes d'O2 Radio. Et oui, on a aujourd'hui une émission avec Guy Sénéchal, qui est enseignant-chercheur et maître de conférences comme géophysicien, puisqu'il étudie aussi les tremblements de terre et les séismes, et on fait une émission sur les colères de la Terre. Alors justement, Guy, on a parlé de la France On a parlé des séismes un peu en France. Et pour ce qui est de l'Italie, pourquoi l'Italie est un endroit qui est si touché par les tremblements de terre ?
Alors, les tremblements de terre, l'origine, elle est essentiellement liée à la tectonique des plaques. Donc, en deux mots, hein, nous avons une planète qui est chaude, très chaude en son cœur, et dont la surface, hein, l'enveloppe périphérique est plutôt froide. Donc, si on descend à quelques dizaines de kilomètres de profondeur, cette chaleur fait que la roche ne peut plus casser. Mais par contre, elle va, alors je vais utiliser un terme un petit peu de physicien, à quelques dizaines de kilomètres de profondeur, la roche va convecter, un petit peu comme du miel, qui tout doucement, sous l'effet de la chaleur, va couler centimètre par centimètre. C'est un déplacement dans le manteau, la roche se bouge de quelques centimètres par an. Mais la périphérie, notre croûte terrestre, elle, étant rigide, sous l'effet de ces mouvements profonds, elle s'est fracturée. Elle s'est fracturée en quelques 15, 20 plaques, ce qu'on appelle les plaques tectoniques, les plaques lithosphériques, qui bougent les unes par rapport aux autres. Certaines bougent très peu, quelques millimètres par an. D'autres bougent un peu plus, quelques centimètres par an. Et en fonction de l'endroit où l'on se trouve, si l'on est sur une limite de plaques qui bouge un peu plus vite qu'une autre, eh bien on va avoir plus souvent des tremblements de terre et surtout des tremblements de terre plus forts. Donc les endroits qui bougent le plus, c'est toute la périphérie du Pacifique, c'est pour ça qu'on entend souvent parler du Japon par exemple, ou de la Californie ou du Chili. En Europe, on a quelques zones où les plaques bougent relativement vite et la principale, c'est cette limite entre la plaque eurasienne, donc on va dire la plaque européenne incluant la France, l'Allemagne, la Suisse, et puis la petite plaque adriatique qui porte l'Italie. Donc voilà, nous on dit que la géodynamique est plus importante en Italie, autrement dit la mobilité des plaques tectoniques est un peu plus forte en Italie, donc ils ont malheureusement pour eux plus souvent des tremblements de terre un peu plus forts que les nôtres.
D'accord. Oui, parce qu'on a eu quand même des tremblements de terre de magnitude importante. En Italie, il y a eu des villes qui étaient partiellement détruites.
Tout à fait. On a eu plusieurs fois des sismes de magnitude 6, 6,2, 6,3. Alors, les plus récents, il y a 10 ans, hein, en août 2016, le sisme d'Amatrice, on donne en général au sisme le nom du village localisé à l'épicentre. Certains se souviennent peut-être du sisme de l'Aquila en 2009. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des sismes donc, de magnitude 6,2, 6,3, et c'est très exactement la magnitude de séisme majeur que nous attendons dans les Pyrénées ou dans les Alpes. C'est déjà arrivé. Donc, on va dire que l'Italie a plus souvent été confrontée à ce genre de séisme, mais en termes de magnitude, on est à peu près sur un pied d'égalité. Les plus forts séismes italiens correspondent à peu près aux plus forts séismes pyrénéens ou alpins que l'on peut redouter.
Ailleurs dans le monde, on a des endroits qui sont propices aux séismes violents de magnitude 6, 7, 8, 9. Est-ce que ça... Oui. Le Japon, par exemple ?
Alors, on pense toujours au Japon. Si je devais faire une liste rapide, hein, donc oui, il y a le Japon, il y a la Turquie, il y a le Chili, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a la Californie. Et on pourrait comme ça continuer et se rendre compte que finalement, beaucoup de pays sont confrontés à de très forts séismes, mais la société ne mémorise pas, je dirais, de manière homogène. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez des pays où finalement il y a relativement peu de monde et on va donc finalement peu parler des conséquences des séismes. On parle beaucoup du Japon parce qu'ils ont non seulement beaucoup de forts séismes, mais il y a aussi une très forte densité de population. Donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur la notion de risque sismique. Le risque sismique, il requiert deux choses. Il requiert d'avoir des séismes forts, mais il faut aussi avoir une certaine vulnérabilité, donc beaucoup de bâtiments, beaucoup de population. Et le Japon a dû, de force, s'attaquer très très tôt à la prévention, l'anticipation, faire en sorte que lorsqu'un séisme violent a lieu, ça se passe bien. Et c'est pour ça qu'on parle énormément du Japon. Mais dans ce domaine, les champions du monde sont les Chiliens. Les Chiliens sont les champions du monde à plusieurs titres. Ce sont eux qui ont eu les séismes les plus forts au monde. Le plus fort séisme enregistré à ce jour, en 1960, magnitude 9,5, il a eu lieu au Chili. Et c'est aussi le pays qui a été le premier à étudier les tremblements de terre et à se prémunir, c'est-à-dire à faire en sorte que ça se passe le mieux possible quand il y a un fort tremblement de terre. Et le résultat est relativement remarquable, puisque finalement, on n'entend jamais parler de problèmes au Chili. Si on essaye de se souvenir les uns les autres des derniers séismes qui ont fait parler d'eux, certains se souviennent peut-être de la Birmanie. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 8 mois, 9 mois, un séisme extrêmement violent, ayant fait des dégâts à plus de 1000 km de l'épicentre. Certains se souviennent peut-être du Maroc, de la Turquie. Je n'ai plus la date en tête, mais il y a eu quelques années, il y a 3-4 ans, en février, deux très gros tremblements de terre en l'espace de 10 heures en Turquie. Et voilà, donc petit à petit, on se rend compte que oui, qu'il y a en général une trentaine de forts séismes chaque année. Je dis bien de forts séismes, parce que des séismes, il y en a toutes les secondes. Il y a tellement de tremblements de terre, c'est un phénomène totalement régulier, je dirais presque banal. Des tremblements de terre, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des très forts séismes, c'est à peu près une trentaine, donc pas loin d'un par semaine. Mais tous ne font pas parler d'eux de la même manière, et heureusement. Essentiellement parce que de plus en plus, nous nous prémunissons de ces tremblements de terre. De plus en plus de pays ont attaqué le problème à bras-le-corps, construisent en respectant les normes parasismiques, font beaucoup de prévention, beaucoup d'anticipation, et on va dire dans certains pays tels que la Californie, le Japon, je l'ai cité tout à l'heure, le Chili, cela se passe finalement relativement bien quand il y a un séisme fort.
Oui, ce sont des pays où ils sont entraînés à ce genre d'événement parce qu'ils ont des séismes forts, donc voilà. Ils ont l'habitude d'anticiper, si on veut. Et d'ailleurs, ils ont des constructions pour la plupart antisismiques au Japon.
Tout à fait. À partir du moment où on est régulièrement confronté à un problème, on prend le problème à bras-le-corps et on s'y attaque. En France, c'est ce qu'on appelle la culture du risque. En France, vis-à-vis des séismes, on a justement ce problème de ne finalement pas être confronté si souvent. Si je prends les Pyrénées, un séisme qui provoque des dégâts, c'est à peu près une fois tous les 15 à 20 ans. Alors certains pourraient dire, mais finalement, c'est assez fréquent. Oui, et en même temps, c'est pas suffisant pour que ça déclenche une prise de conscience collective. Alors il y a néanmoins des normes. Au fur et à mesure que les décennies passent, il y a des normes parasismiques, des normes obligatoires pour la construction des bâtiments. Toutes les communes des Pyrénées, depuis une quinzaine d'années, ont une obligation de respecter les normes parasismiques pour tout nouveau bâtiment, quel que soit le type de bâtiment, du bâtiment particulier jusqu'au bâtiment collectif. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années que c'est comme ça. C'est pas propre aux Pyrénées, c'est le cas aussi dans une partie des Alpes. Et c'est aussi accompagné avec d'autres démarches collectives ou individuelles qui consistent à faire énormément d'informations dans les régions concernées. Par exemple, dans les Pyrénées, vous avez à Lourdes un centre d'information permanent sur le risque sismique. Ça s'appelle Épicentre, c'est un centre d'information ouvert au grand public. Vous pouvez y aller, il y a un simulateur de séisme, il y a des écrans, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'est un séisme et comprendre ce qu'est le risque sismique. Vous avez comme ça aussi les pompiers d'international qui, à longueur d'année, font dans toute la France circuler un véhicule avec un simulateur de séisme qui permet de commune en commune, de comprendre quel est le problème. Donc on a bel et bien des actions qui sont engagées depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Ça reste relativement peu connue, tout simplement parce qu'en effet, nous ne sommes pas souvent confrontés à ce genre de catastrophe. Mais si demain, nous avons en France métropolitaine un séisme fort, tout le monde prendra conscience qu'il y avait eu une prise de conscience, au moins, je dirais, collective, hein, au niveau des responsables, hein, au niveau des préfectures, au niveau des communes, qui font qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de directives. Toutes les communes, en principe, ont ce qu'on appelle un DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs. Tout le monde peut consulter son DICRIM et se rendre compte que dans un certain nombre de communes, le risque sismique est bel et bien marqué. Un certain nombre de communes ont ce qu'on appelle un PCS, un plan communal de sauvegarde. Et dans les communes des Pyrénées, ce PCS, il intègre le risque sismique. On a même, depuis 2 ans, un PPRS, je suis désolé pour les acronymes, hein, c'est une spécialité française, on a un plan de prévention des risques sismiques sur la commune de Lourdes. C'est la 2e fois en France qu'un PPRS est mis en place. Le premier, ça avait été à Nice. Ce PPRS à Lourdes, il a comme objet d'inciter, d'amener à ce que les propriétaires fassent renforcer un certain nombre d'éléments, à savoir les cheminées, les balcons, sur les bâtiments de la commune de Lourdes. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience, il y a énormément de sites internet, il y a énormément de conférences, beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires, mais bien sûr essentiellement dans les régions directement concernées. Donc vous en entendez parler surtout si vous habitez dans les Pyrénées, dans les Alpes ou dans le massif rhénan, enfin dans le fossé rhénan en Alsace. Si vous habitez du côté de Bordeaux, si vous habitez en Gironde, non. C'est vrai qu'on parle très très peu de tremblements de terre. Il y en a de temps en temps, plutôt je dirais du côté au nord, hein, du côté de l'île d'Oléron. En 1972, à l'île d'Oléron, il y a eu un très très fort séisme. Il y a de temps en temps des séismes, voilà, plus on va dire du côté de Royan, Rochefort. Il n'y a pas de séisme dans les Landes. Voilà. Donc ça explique aussi pourquoi certains secteurs entendent très très peu parler de sismicité.
On entend, quand on parle de séisme, quand on écoute les médias, on entend parler beaucoup de failles. Des failles, il y en a où exactement? Il y en a, je sais, dans l'Atlantique, il y en a dans la Méditerranée, il y en a où des failles? C'est souvent dans le fond des océans d'ailleurs.
Alors voilà, tout à l'heure j'ai parlé des plaques tectoniques, donc ces plaques, elles sont toutes séparées par de grandes failles. Certaines se trouvent en effet au fond des océans, c'est ce qu'on appelle les dorsales. Vous en avez une qui traverse tout l'Atlantique, vous en avez une au milieu de l'océan Pacifique. Au niveau de ces grandes failles, à 2000 mètres de profondeur, vous avez du volcanisme, c'est là que se crée la nouvelle croûte. En fait, à cet endroit-là, les plaques s'éloignent progressivement l'une de l'autre, centimètre après centimètre, et à la faveur de cet éloignement, vous avez du magma qui remonte et qui constitue de la nouvelle croûte. Et puis vous avez d'autres endroits où, au contraire, les plaques vont converger, vont se rentrer dedans, on va dire, et ça forme les chaînes de montagnes. Les plus connues étant l'Himalaya, les Andes, les Alpes, les Pyrénées. Et à ce moment-là, souvent, une plaque monte sur l'autre. Dans le cas des Pyrénées, vous avez la plaque espagnole, on va dire, ibérique, qui s'enfonce tout doucement sous la plaque eurasienne, celle qui porte la France. Et donc là, à ce moment-là, c'est le processus inverse de ce qui se passe sous les océans. On a disparition progressive de la plaque. Donc ça, ce sont les grandes, grandes failles. Mais en fait, à côté de ces grandes failles, on peut dire que l'intégralité de la croûte, l'intégralité des plaques, est plus ou moins fracturée, parfois pour des raisons historiques. J'ai cité tout à l'heure la Bretagne. Beaucoup de gens sont surpris de voir que nous avons des séismes sur la bordure sud de la Bretagne, alors qu'il n'y a plus de chaîne de montagne. Ben, il faut remonter 300 millions d'années en arrière, à une époque où il n'y avait pas les Alpes, où il n'y avait pas les Pyrénées, à une époque où l'océan Atlantique tel qu'il est aujourd'hui n'existait pas, où aucune des côtes actuelles n'existait, et nous avions une grande chaîne de montagnes qu'on appelle la chaîne hercynienne. Et cette chaîne hercynienne a profondément fracturé notre croûte, Et aujourd'hui, cette chaîne n'existe plus, hein, mais elle est à l'origine du superbe granit breton. En profondeur, les failles sont toujours là. Et ces failles continuent tout doucement à bouger, à glisser, d'où cette sismicité bretonne qu'on observe sur la côte sud de la Bretagne. Donc voilà, des failles, en fait, on en a énormément. Il faut quand même savoir qu'en général, on ne sait pas trop où elles sont. On connaît les principales, on connaît les limites de plaques. Si vous prenez les Pyrénées constituent une limite de plaques, hein, ce qu'on appelle la faille nord-pyrénéenne. Mais vous avez une multitude de failles, quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de cette grande faille-là. Et toutes ces failles secondaires, on ne les connaît pas encore, on ne les a pas identifiées parce qu'elles n'émergent pas en surface. Et c'est vraiment l'étude de la sismicité, année après année, qui nous permet petit à petit de les cartographier.
D'accord. Et on va dépasser un peu le sujet. Et les tsunamis sont la résultante de rencontres de plaques. Comment on peut expliquer un tsunami ?
Un tsunami, alors pour avoir un tsunami, il faut un phénomène qui va déplacer un très grand volume d'eau. C'est toute la différence avec une vague. Hein. Si vous prenez les vagues que vous avez en plein milieu de l'océan, les vagues, elles sont provoquées par le vent. C'est la friction du vent qui provoque les vagues, et ces vagues ne concernent que la surface de l'eau. Toute personne qui un jour a plongé sous une vague se rend bien compte que à quelques mètres de profondeur, c'est fini, l'eau est calme. Dans le cas du tsunami, il faut un phénomène qui véritablement va déplacer des quantités astronomiques à la totalité du volume d'eau disponible. Alors vous avez deux types de phénomènes. Il y en a un, ce sont les méga glissements de terrain. Lorsque vous avez un très très grand glissement de terrain en bordure d'océan, ça peut provoquer un tsunami. Mais le processus le plus courant, c'est le tremblement de terre. Alors, pour avoir un tsunami, il faut quand même deux choses importantes. Il faut un tremblement de terre correspondant à une convergence entre les plaques. Hein. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des endroits où les plaques s'éloignent progressivement, les dorsales que j'ai citées au centre de l'Atlantique, au centre du Pacifique. Ça ne provoque pas de tsunami. Pour avoir un tsunami, il faut que les plaques convergent. C'est ce qu'on observe sur tout le pourtour pacifique, que ce soit le long du Chili, que ce soit le long de toutes les côtes japonaises, mais aussi Java, Sumatra, les Philippines, ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. Et il faut aussi énormément d'énergie. Donc il faut une magnitude au moins de 7, voire 7,5. Donc lorsque vous avez un séisme d'une magnitude supérieure à 7 dans une zone de convergence, alors comment on va expliquer ça rapidement? Il faut essayer d'imaginer que les plaques au fond de l'océan, sous l'effet des contraintes, elles se déforment légèrement, un petit peu comme si vous aviez une tôle, et cette tôle, vous essayez de la comprimer, elle va légèrement onduler. Et lorsque le séisme a lieu, finalement, il y a une relaxation, et l'ondulation, la plaque se détend, l'ondulation disparaît. Et ça provoque une remontée soudaine de l'eau dans l'océan, mais à un endroit où vous avez 4000 mètres d'eau. Donc en plein océan, quelqu'un qui serait sur un bateau ne se rend pas compte du phénomène. L'eau va remonter de quelques dizaines de centimètres, peut-être d'un mètre ou deux, voilà, en plein milieu d'un océan, une remontée d'eau de 1 mètre ou 2, ça passe inaperçu. Et ce phénomène va se propager à une vitesse à peu près de 800 km/h. Et lorsque le phénomène va se rapprocher des côtes, la profondeur d'eau va diminuer, ce qui va ralentir énormément ce déplacement d'eau. On va passer de 800 à 600, puis à 400, puis à 200 km/h. Et ça va se traduire par le fait que l'eau va en quelque sorte se retrouver en quelque sorte concentrée. Au lieu d'avoir un petit déplacement, on va avoir une montée en puissance qui va se traduire par une montée très très rapide du niveau de l'eau, et une montée qui peut se faire jusqu'à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, voire exceptionnellement 30 mètres de hauteur. Et cette remontée d'eau en arrivant sur la côte, elle s'affale. Et c'est ça le phénomène de tsunami. C'est donc finalement une remontée d'eau océanique provoquée par un séisme et qui, au contact d'un biseau lié à la plage, fait que l'eau va monter, puis s'affaler. on a observé donc, à plusieurs reprises, il y a eu bien sûr le tsunami qui a provoqué la catastrophe de Fukushima. Donc là, on a un exemple vraiment assez symptomatique de la situation. On a un séisme exceptionnel, une magnitude supérieure à 9, pas très éloigné du Japon, qui, séisme en lui-même, n'a pas de grosses conséquences. Si on regarde bien, il n'y a pas de victimes, les bâtiments bougent énormément, hein, à Tokyo, partout, mais on n'a pas d'effondrement majeur. Par contre, bien sûr, on a un petit peu de dégâts matériels, et je dirais qu'en lui-même, le séisme n'a pas eu d'autres conséquences. Mais ce séisme a provoqué la formation d'un tsunami. Et autant on peut se protéger assez facilement d'un tremblement de terre, faire en sorte que les choses ne tombent pas quand on les secoue, autant se protéger d'un tsunami, c'est extrêmement complexe. Il ne suffit pas de construire un mur. Et donc le tsunami sur la baie de Fukushima, on sait la conséquence que ça a eu, c'est le tsunami qui a détérioré les infrastructures des centrales nucléaires, avec toutes les conséquences ultérieures. Mais il y a 20 ans, on a aussi eu le très grand tsunami qu'on appelle tsunami de l'Asie du Sud-Est, hein, du côté de Java, Sumatra, où là, on a eu un très fort séisme qui a provoqué des dégâts, et tout de suite après, formation d'un tsunami qui a lui-même traversé l'océan Indien. Ce qui explique que le séisme ayant eu lieu du côté de Java, Sumatra, il y a eu des victimes de l'autre côté, sur les côtes indiennes, du côté de Ceylan, etc.
D'accord. Alors, une dernière question avant de terminer l'émission. Est-ce qu'on peut prévoir les séismes? Est-ce qu'il y a une prévision possible pour éviter de telles catastrophes?
Alors, on ne peut pas faire de prévision au sens strict. C'est-à-dire de pouvoir dire quand, où et quelle magnitude. Ça, c'est impossible. Il y a eu des tentatives, mais ça marche une fois de temps en temps. Donc, ça reste presque du hasard. Quand vous annoncez 10 fois, il va y avoir un séisme à tel moment, à tel endroit, et que ça arrive 1 fois sur 10 ou 2 fois sur 10, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. On connaît un certain nombre de phénomènes qui sont observés avant un séisme, mais aucun n'est systématique. Rapidement, je peux dire par exemple que dans certains cas, on s'est rendu compte après coup que tel très gros séisme avait été précédé par une période de calme exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on avait eu très 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 peu de tremblements de terre dans les mois ou les années précédentes. Mais on a le phénomène inverse. D'autres très gros séismes ont été précédés d'une augmentation progressive de la sismicité. Donc au final, on peut dire de manière formelle aujourd'hui que non, il n'y a aucun moyen fiable de prévoir un tremblement de terre. Par contre, on peut faire de la prévision sur le long terme. Si je reprends l'exemple des Pyrénées, ça fait maintenant bientôt 50 ans qu'on enregistre des tremblements de terre, et on a à peu près 5 à 6 siècles d'histoire basés sur les archives. Et on se rend compte que les tremblements de terre ont toujours lieu, grosso modo, au même endroit. Si vous prenez les Pyrénées, on se rend compte qu'il y a énormément de tremblements de terre dans les Pyrénées centrales, entre Bagnères-de-Bigorre et un village qui aujourd'hui est bien connu dans le monde de la sismologie, c'est le village d'Arrête. Si vous allez plus du côté des Pyrénées orientales, c'est une sismicité beaucoup plus diffuse. Bref, on peut faire ce qu'on appelle un zonage. Et comme les tremblements de terre sont liés à des phénomènes géologiques, et que ces phénomènes ne varient pas à l'échelle humaine, on peut dire que ce qu'on a observé depuis quelques siècles est à l'image de ce que l'on va observer dans les siècles à venir. Et ça, c'est la base de la prévision long terme. On peut dire aujourd'hui, par exemple, que depuis quelques siècles, on observe en moyenne un séisme fort de magnitude 6 tous les 100 à 150 ans, dans un secteur, en gros, entre Bagnères-de-Bigorre et Arrête. Et à partir de là, voilà, on ne peut pas annoncer quand sera le prochain, mais on peut affirmer que tôt ou tard, on en aura un. Et c'est à partir de là qu'on dit, bien, on va mettre en place un certain nombre de dispositions que j'ai abordées tout à l'heure, c'est-à-dire la construction parasismique, un plan de prévention, de l'information, de manière à ce que chacun, progressivement, s'y prépare.
Guy, merci. Merci infiniment pour ce beau témoignage, même si c'est catastrophique, ce serait le terme, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un livre? Est-ce que vous avez sorti un livre?
Non, et non, malheureusement, on en parle beaucoup. Il y a eu un livre qui est sorti, mais maintenant il a plus de 25 ans. C'est mes collègues Annie Souriot et Mathieu Sylvander de l'Observatoire Midi-Pyrénées qui avaient sorti un livre dans les années 96-98. Et depuis plusieurs années, on parle de le rééditer en l'améliorant, parce qu'il y a énormément de progrès. Et malheureusement, voilà, ça fait partie du fait que nous sommes peu nombreux en sismologie, débordés, et que cette activité, je dirais, de vulgarisation, nous n'avons pas encore eu le temps d'aller jusqu'au bout. Il existe néanmoins énormément de documents sur Internet. J'invite tout le monde à regarder, entre autres, le Bureau Central Sismologique Français, le BCSF. Vous avez aussi le RSSP, le Réseau Sismologique, Surveillance Sismologique des Pyrénées. Bref, en cherchant un petit peu, on trouve beaucoup d'informations sur les tremblements de terre. Et surtout, je vous invite à consulter le site du CEPRIM. CEPRIM, c'est le Centre de Prévention des Risques Majeurs, situé dans les Pyrénées, dans lequel vous allez trouver beaucoup d'informations, non seulement sur les tremblements de terre, mais aussi sur les crues, les inondations, les glissements de terrain. Et si certains s'y intéressent, non seulement ils peuvent consulter le site du CEPRIM, mais ils peuvent surtout aller à l'occasion à Lourdes et visiter Épicentre, l'unique centre d'information sur le risque sismique en France.
Comment on peut vous suivre sur Internet?
Oui, il y a moyen de suivre, en particulier via ce site CEPRIM auquel je participe activement.
D'accord. Merci Guy, merci infiniment, merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler tremblement de terre.
C'était passionnant parce qu'ici, dans l'émission Les Portes de la Connaissance, on aime bien parler de science. Moi-même, je suis astrophysicien. C'est vrai qu'on aime parler de science parce que dans la science, c'est très vague, c'est très large. Il y a beaucoup de sujets et beaucoup de sujets très intéressants. Et souvent, les gens se posent beaucoup de questions et n'ont pas de réponses. Et c'était l'occasion justement d'en parler.
Merci encore de m'avoir invité.
De rien. Pour la prochaine émission, nous accueillerons un scientifique astrophysicien qui viendra nous parler des la recherche des planètes où il pourrait y avoir éventuellement de la vie, les exoplanètes, on appelle ça, les planètes habitables qui sont observées par nos astrophysiciens avec des lunettes astronomiques au Chili et ailleurs. Et on en parlera dans la prochaine émission vendredi prochain, il sera en direct sur le plateau. Merci beaucoup à tous, je vous dis une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et surveillez bien sur la page d'O2 Radio, les Portes de la Connaissance, les émissions à venir. Merci beaucoup, au revoir. Les Portes de la Connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.